Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Philippe Duval qui est aux manettes techniques de cette émission. Et à la une de l'émission, MC Ruby, le nom de ce cargo qu'on pourrait appeler le cargo de la mort. Alors, ça fait titre de mauvais film de série B. C'est malheureusement une réalité, une affaire terrible qui s'est déroulée en 1992 entre trois temps, d'une part les côtes du Ghana, un port du Ghana qui va vers l'Europe du Nord, d'abord le Havre, et il y a à bord de ce bateau neuf jeunes Africains qui sont montés, qui se sont dissimulés dans les soutes de ce cargo. Ils vont être découverts par l'équipage, ils vont être pour huit d'entre eux assassinés d'une rafale de pistolets mitrailleurs, et jeté ensuite à la mer. Et on ne connaîtra cette histoire que grâce à l'un d'entre eux, le neuvième, celui qui a pu échapper à la mort et qui, en arrivant au Havre, a pu quitter le bateau et ensuite prévenir la police. Il y a eu trois ans plus tard un procès qui s'est tenu à Rouen. C'est une affaire vraiment hors norme, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement n'est que la marque d'un phénomène beaucoup plus ample qui dure depuis très très longtemps. Et cette situation n'est malheureusement pas uniquement celle qui a prévalu sur ce fameux cargo. Alors pour en parler, j'ai invité ceux qui vraiment étaient au cœur de ce dossier, mon confrère Alain Lorne, bonjour.
Bonjour.
Et merci donc d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur ce qui a été, au-delà des faits, pour vous une vraie aventure, puisqu'elle a débouché ensuite sur un livre, Clandestin, neuf Africains dans la cale, un rescapé, un livre qui est paru en 1995, juste avant le procès, aux éditions de l'Harmattan. Et puis, nous avons également Maître Isabelle Coutant-Père. Bonjour.
Bonjour.
Avocate au barreau de Paris, qui a représenté dans ce procès les familles des jeunes Africains assassinés. Et Jean Reynaud, ancien président du tribunal de Rouen. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Merci beaucoup. C'est rare qu'un président de tribunal s'exprime à la radio.
Cour d'assises.
Cour d'assises, pardonnez-moi. Et en tout cas, c'est très encore plus rare qu'un président de cour d'assises s'exprime. Mais vous avez récupéré votre liberté de parole. En fait, c'est comme ça qu'on peut interpréter. Puis peut-être le côté hors norme de ce procès, quand même.
Hein. Oui, c'est ça.
Alors, avant d'entrer plus dans cette histoire, je voudrais qu'on écoute un premier document RTL. Ce document date du 8 novembre 1992. C'est ce jour-là qu'on apprend sur RTL que le capitaine et les matelots d'un cargo ont été arrêtés au Havre à la suite du témoignage d'un passager clandestin ghanéen qui a indiqué à la police que sept de ses compatriotes avaient été battus à mort et jetés en plein océan par les membres de l'équipage. C'est une information RTL de Xavier Benerozo qui donnait ce jour-là les premières explications sur l'affaire dans RTL Soir.
Cela fait maintenant 4 jours qu'un cargo rempli de cacao battant pavillon des Bahamas qui devait faire route vers Amsterdam mouille dans le port du Havre. Le témoignage d'un passager épouvanté immobilise ce navire de 150 mètres de long. Cet homme est un clandestin, un Ghanéen. Avec 7 de ses camarades, il a profité d'une escale du Makrubi dans le port africain de Takoradi pour monter illégalement à bord du bateau. La partie de cache-cache ne dure pas. La semaine dernière, en haute mer, au large du Portugal, le capitaine et les membres d'équipage des Ukrainiens découvrent les intrus que l'on décide de punir en leur tirant dessus à la carabine, puis on les jette par-dessus bord. Seul témoin de cette mortelle traversée, un clandestin parvient à se cacher. Arrivé à bon port, le survivant raconte tout à la police. 6 membres de l'équipage en question sont gardés à vue ce soir. Ce n'est malheureusement pas la première fois que, comme on dit dans le jargon maritime, on balance au jus des clandestins. Les équipages coupables justifient l'envoi à la mort de ces passagers par un raisonnement simple, économique et féroce. Avec des clandestins à bord, ils risquent d'être ennuyés par les douanes qui peuvent retarder la traversée, bloquer à quai le navire pour des formalités.
Alors maintenant, on va décrypter tout cela, et dans un premier temps avec Alain Lorne. Ce cargo est un cargo comme il y en a des centaines, voire des milliers, Alain Lorne, et qui fait ce périple entre l'Afrique pour transporter des graines de cacao, quoi, et l'Europe du Nord.
Oui, c'est un cargo qui bat pavillon de complaisance, ce qui permet aux armateurs de faire circuler les marchandises à moindre frais. Et naturellement, les conditions d'emploi des marins qui sont à bord, elles sont assez précaires. Ce sont des gens qui sont tour à tour, des gens qui travaillent comme les Ukrainiens, soit chez eux, à d'autres moments, ils peuvent bénéficier d'une embauche comme ça pendant 5-6 mois. Ensuite, ils reviennent.
Presque tous d'Odessa, de la ville
d'Odessa, d'une manière générale.
Oui. Et alors donc, il n'y a pas de vraiment, évidemment, les lois sociales, c'est un euphémisme, on est bien d'accord.
Oui.
Et maintenant, alors, il est courant pour ces cargos de trouver à bord des clandestins.
C'est assez fréquent pour les raisons économiques qu'on connaît, c'est-à-dire cette Afrique sinistrée, du moins sur les côtes ou certaines parties, enfin les villes sont sinistrées, il y a un chômage, enfin on connaît tout ça. Donc ces gens-là n'ont pas d'autre perspective que soit de devenir marin, fisherman, ou alors porteur de cacao, c'est-à-dire en l'occurrence à Takoradi,
Takoradi, c'est le nom du port au Ghana.
C'est le nom du port, là où c'est noué toute l'affaire, en fait.
Ouais. Et il transporte des sacs de 65 kilos, je crois, de graines.
Voilà.
Salaire journalier, $2. Salaire moyen.
Oui, c'est quelque chose. Voilà. Donc, naturellement, leur seule perspective, c'est lorsqu'ils ont un peu l'esprit aventurier, parce qu'ils sont quand même nombreux, ils ne sont pas tous prêts à partir.
Bien sûr.
Ce sont des gens qui ont l'esprit d'aventure, qui sont. Risque tout, disons. Et ceux-là sont prêts à essayer de grimper, de tenter leur chance sur les mers.
Pour un Eldorado qu'ils imaginent trouver soit en Europe, soit aux États-Unis, ailleurs dans le monde, de toute façon, où la situation ne peut être, selon eux, que meilleure que celle qu'ils connaissent. Alors là, il y a 8 Ghanéens qui sont des dockers, qui transportent qui travaillent en tout cas sur ce port et qui transportent ces fameux 5, et 8 vont tenter l'aventure, et quand ils vont monter à bord de ce cargo, ils vont trouver quelqu'un qui les a précédés.
Il y a quelqu'un qui est déjà là, qui vient de Douala, Cameroun, j'ai oublié le nom de ce garçon, mais il est déjà perché quelque part dans cette immense cale. Et il est venu là avec 3-4 bouteilles d'eau, et puis il leur dit, moi aussi je veux partir... Donc ils se retrouvent, ils forment équipe aussitôt.
Ils vont faire une équipe parce que d'ailleurs Kingsley, dont on va beaucoup parler évidemment aujourd'hui, c'est le survivant, va être chargé de partager la nourriture et l'eau. Donc il y a une organisation qui se fait entre.
Je crois qu'il a un peu, il est charismatique un petit peu. Donc d'emblée, on le laisse diriger les opérations, les affaires.
Je voudrais un mot de Maître Coutant-Père et de Monsieur Reynaud. Vous avez découvert personnellement cette situation, Maître, à l'occasion de ce procès ?
La situation de ce qui se passe dans les grands transports maritimes internationaux, oui. Parce que j'ai découvert à ce moment-là que ça représente 70 ou 80% du transport commercial mondial. Et que quand on est sur Terre, on n'imagine pas l'immensité des océans et ces grands cargos. Je dirais que pendant ce procès, et le président Reynaud me contredira pas, on a vécu dans un cargo pendant plus d'un mois. C'est cette vie incroyable, coupée du monde, de ces cargos. Et les règles, la police, l'organisation militaire et la législation internationale aussi. Sachant qu'il y avait... quelqu'un m'a raconté que dans la salle d'assises... Rouen, il y a beaucoup de marins à la retraite, et il y en avait qui disaient « Mais qu'est-ce qu'on nous casse les pieds avec ça ? On les balance à la mer, c'est normal, il n'y a pas d'autre solution. »
D'accord, oui. Président Reynaud
Écoutez, des dossiers de surnom, vous avez raison de le dire. De cette nature-là, moi, je n'en avais pas connu, auparavant. Je voudrais simplement, je parle un peu de mémoire, donc il faut se faire très attention, mais sur les 6 accusés, les marins n'étaient pas des marins d'opérette. le commandant et son adjoint et les autres, donc Ilitski commandant, Artemenko second, oui, et les marins, étaient des marins qui, pour la plupart, alors, soit russes, ukrainiens, il y avait même un Abkhaz, Arakamiya, qui a été acquitté, avaient servi dans l'armée russe, notamment avaient fait la guerre d'Afghanistan pour un certain nombre d'entre eux, et dans l'ancienne marine militaire soviétique. Et le commandant Ilitski, moi j'étais frappé par la culture de cet homme. Enfin, je veux dire, c'était vraiment quelqu'un...
C'était pas, en tout cas, des barbares à la hauteur de l'acte qui, lui, est barbare. Alors, on va faire une première pause dans l'émission, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus, poser des questions, nous faire part de réactions, voire de témoignages. Si vous connaissez cette situation-là, peut-être avez-vous été marin sur des cargos de ce type, vous pouvez nous joindre au 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou par courriel rtl.fr. On se retrouve dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et nous revenons sur cette tragédie sans frontières. C'est une expression que j'ai trouvée dans des articles de presse à l'époque, en préparant cette émission. Alain Lorne, donc je rappelle que vous avez publié une enquête que vous avez faite à l'occasion de cette affaire. On va y revenir tout à l'heure, sous ce titre, donc, clandestin, 9 Africains dans un cale, un rescapé. Alors, ils embarquent clandestinement, ils font le partage un peu des tâches, et puis ils sont dissimulés dans cette soute immense. Bon, ils vont se faire repérer, en fait, assez rapidement, hein, d'après ce que j'ai compris.
Oui, le fait est que Kingsley a partagé l'eau, mais au bout d'un moment, au bout de deux soirs, toute l'eau est bue, puisqu'ils sont neuf. Ouais. Et il s'agit donc d'aller chercher de l'eau quelque part. Et l'un de ses compagnons connaît la disposition du bateau, parce que son père a travaillé sur ce type de porte-conteneur, enfin, et de bateau mixte, en fait. Hein. Ouais. Et il lui dit, voilà, tu peux trouver de l'eau dans un ballast à tel endroit, et il lui explique comment y aller. Donc Kingsley, toujours lui, n'est-ce pas, sort la nuit, il va chercher, dit-il, 6 gallons. Je ne sais pas ce que ça donne en anglais.
6 gallons, ça fait un peu plus de 4 litres,
voilà,
chose comme ça.
Voilà. Donc, et naturellement, avec ses allers-retours, il finit par être repéré. Ils sont installés dans cette cale. Donc, il faut s'imaginer qu'elle elle est vaste comme un hangar ou comme un, je sais pas, voilà, un hangar, une cathédrale même. Ouais. Ouais. Donc, c'est immense. Et ils sont perchés sur les sacs de cacao, peut-être à 10 mètres de hauteur. Ouais. Et puis, voilà, une lumière apparaît. Et à ce moment-là, ils sont débusqués, naturellement.
Ouais. Alors là, les marins, enfin, le ou les marins qui les débusquent, apparemment, d'ailleurs, n'en parle pas à tout l'équipage, enfin, on reviendra sur tout cela, sur le partage de responsabilité plus tard, mais ils leur demandent, est-ce que vous avez de l'argent ? Et bien sûr, ils ont de l'argent. Ils sont là avec toutes leurs économies.
Ils ont, oui.
Et on leur fait miroiter le fait qu'on va les installer mieux à condition qu'ils payent. C'est comme ça, voilà, que voilà, on les tranquillise, ouais, au départ, quoi.
Je crois qu'ils ont précisément, ouais, une fois réunis tous les fonds, ils ont 1 200 dollars et 400 marques, puisqu'à l'époque, on est encore à l'époque, ouais, on n'est pas à l'époque de l'euro. Ouais. Voilà. Et l'argent que Kingsley a apporté, lui, en fait, il a eu une chance, il a joué à la loterie, il a gagné 800 dollars. Ouais. Dans une de ces petites guitounes, ouais, qui sont sur le port de Takoradi. Alors, ouais, voilà, c'est une loterie. Il a acheté son billet et il a gagné 800 dollars, ce qui est vraiment formidable. Ce qui lui a permis de financer ce voyage.
Ouais,
et l'argent, finalement, oui, ils finissent par le remettre aux marins. Ils finissent, ouais, par le remettre aux marins. Et mais à contre-cœur, ils sont très méfiants.
Et au lieu de les amener dans un endroit où ils seraient mieux traités, où ils auraient à manger, etc., en fait, on va les mettre dans un ballast, c'est-à-dire, en fait, un réservoir vide qui sert à équilibrer le bateau en cas, voilà, de tempête, etc. Voilà. En fait, c'est un cachot, quoi.
C'est plus de basse fosse, ouais, ni plus ni moins.
Ils sont dans, ouais, le pic avant. Dans le pic avant, c'est-à-dire, ouais, là où, ouais, ça tape.
Là où ça tape le, ouais, plus, ah, en, oui, plus, évidemment. Ouais. Et c'est là où ils vont passer des jours sans manger, sans boire.
On leur apporte un peu d'eau. On leur apporte un petit peu d'eau, mais on leur donne pas à manger. Et avant que le massacre ne soit commis, on leur promet de leur apporter à manger. Ce soir, vous aurez à manger, leur promet un démarrage.
Alors, le bateau est parti le 24 octobre du Ghana. Là, on est dans la nuit du 2 au 3 novembre. Il y a une tempête. Les conditions sont assez difficiles. Et là, on revient les voir. Et on leur ment encore une fois. C'est là où ils vont se faire tuer.
Oui, il s'agit en fait de les faire sortir l'un après l'autre ou deux par deux, parce que frontalement, il est impossible de massacrer cette personne. Donc il faut pratiquer cette tactique, les faire sortir deux par deux. Et bon, c'est donc ce qui va se produire. Moi, si vous voulez, lorsque Kingsley m'a parlé, parce que il m'expliquait tout ça en détail, il était encore sous le choc, ce garçon, puisque ça s'était produit 4 ou 5 jours avant. Il avait toujours cette balafre là qui lui ouvrait le front.
Parce qu'il avait été frappé à coup de barre de fer.
Il a pris un coup de barre de fer, voilà, juste en dernier lieu, en fait, puisque ses amis ont été tués. Bon, mais ça s'est produit de la manière suivante.
Et son frère. Il a vu mourir
son frère, Cujo. Donc on les a fait sortir deux par deux, tranquillement. Et là où ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont été tués, pas en silence, mais dans ce bruit de tempête que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais. Donc ils se sont aperçus de rien. Mais à un moment, Kingsley dit à son frère, attention, méfie-toi, parce qu'il y en a un qui est couvert de sang. Un des marins ukrainiens.
Ouais. Ils vont nous tuer.
Donc ils vont nous tuer, voilà.
Et c'est là où lui va réussir à s'échapper, à se cacher dans cet immense bateau et à survivre jusque au moment où le bateau fait escale donc dans le port du Havre, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Il est réfugié en haut des sacs à ce moment-là. Alors il n'a ni à boire ni à manger. Il y a des chasses chaque nuit. Les marins sont dans une colère terrible. Et chaque nuit ils essaient de le retrouver. De la farine sur le sol pour repérer les empreintes de pas éventuelles, etc. Ouais. Kingsley meurt de faim, de soif, mais surtout de soif, donc il pisse dans sa chaussure pour essayer de...
Et il boit son urine.
Il essaye, en tout cas, voilà. Et puis, jusqu'au matin où les machines se calment et il est arrivé quelque part, en Europe. L'Europe. Alors, l'Europe, c'est une notion chez lui. C'est pas l'Europe, l'Europe, ça peut être Amsterdam, mais ça peut être aussi un pays, la France. Enfin, on sait pas. L'Europe, c'est un concept.
Et il va sauter 4 mètres, parce qu'il veut pas prendre, évidemment, le chemin normal. Hein. Il y a une passerelle pour aller à terre, mais lui, il saute du bateau sur le quai.
Il saute du bateau,
et il s'en va.
Il se fait mal à la jambe. Ouais. Court, il arrive, il y a un grillage, je sais pas, 3 ou 4 mètres de haut. Donc il est paniqué. Une chose d'abord, il y a une flaque d'eau au sol.
Et
il a plu. Il se met à 4 pattes et il lappe. Il n'a pas bu depuis 4 ou 5 jours, je ne sais pas.
C'est vraiment terrible. C'est pour ça que, bon, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais je crois qu'il faut dire quoi, ce qu'ont vécu ces hommes, ceux qui malheureusement ont été les victimes de tout ça, et puis Kingsley qui a quand même une sorte de chance incroyable. Il n'y a pas que le billet de loterie, il a eu de la chance. Et il va réussir à aller voir les policiers, enfin vous racontez ça en détail dans votre livre, et c'est là que l'affaire va éclater. Alors, voilà ce qu'il fallait rappeler. Il va y avoir un procès 3 ans plus tard. On va parler dans un instant de cette personnalité de Kingsley au Foussou, donc ce Ghanéen. On va parler du procès devant la cour d'assises de Rouen. Dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Nous revenons sur l'affaire de la tragédie du MC Ruby, c'est le nom de ce cargo qui bat pavillon panaméen, mais qui en fait appartient à des armateurs qui sont à Monte-Carlo avec un équipage ukrainien. On va revenir sur ce montage particulier et sur cette zone de non-droit que constituent des cargos de ce type avec mes invités dans un instant. On va également donner la parole à maître Patrick Benboili dans quelques instants. Il a été l'avocat de l'un des accusés de ce procès. Deux d'entre eux ont été condamnés à perpétuité. Mais auparavant, un document RTL, le procès, évidemment, a commencé 3 ans plus tard, le 13 novembre 95. Il y a 5 marins dans le box des accusés. Et le 22 novembre, donc après une semaine de procès, on entre vraiment dans le vif du sujet. Certains prévenus ont fini par reconnaître à demi-mot leur responsabilité. C'est ce qu'explique en tout cas sur l'antenne d'RTL Jacques Ardouin qui suit le procès pour notre station.
Je reconnais tout. À la barre, vêtu d'un survêtement, Sergueï Romachenko, simple matelot du MC Ruby admet le massacre des 8 clandestins. Dans le box, les 5 autres accusés, visage impassible, ne bronchent pas. Ils continuent d'observer un calme étonnant. Le commandant ne reconnaît rien. Son second avoue la séquestration. Le steward dit avoir frappé, mais ne pas avoir tué. Un autre matelot confesse qu'il y a eu tentative d'homicide en raison de l'agressivité des Africains, mettant en danger navire et équipage. C'est pas moi, c'est l'autre, a-t-on cru deviner. Auparavant, l'examen des personnalités avait catalogué les prévenus. Bon marin, bon mari, presque aussi doux que des agneaux. En face d'eux, Kisley Ofuzu, 22 ans, lui aussi est calme, silencieux et attentif. Rares sont ses regards vers le box. Il y a plus de 3 ans qu'il attend le moment de déposer à la barre, de raconter son voyage de l'horreur. Lui, l'unique rescapé d'une tuerie, le clandestin miraculé, sans lequel il n'y aurait jamais eu de procès.
Jacques Ardoin, donc le 22 novembre 1995 dans RTL Matin. On va prendre en ligne tout de suite Maître Patrick Benbouali. Bonjour Maître.
Oui, bonjour Monsieur Pradel, bonjour à vos invités.
Vous êtes du barreau du Havre et vous défendiez au cours de ce procès le chef steward du MC Ruby, donc l'un des accusés. Alors comment vous expliquez, vous qui évidemment avez plongé également comme mes autres invités dans ce dossier, comment on explique que ces bons marins, bons maris, personnes bien sous tout rapport et en tout cas pas des barbares, aient pu commettre ce genre d'acte et comment l'ont-ils expliquer eux-mêmes?
Écoutez, ça a été très difficile de le comprendre. Oleg Mikhaïlovski, dont j'assurais la défense, était un garçon d'une trentaine d'années, qui était, comme vous le disiez à l'instant, marié, bon père de famille, il avait 2 enfants. Et véritablement, c'était quelqu'un très croyant, c'était un grand blond aux yeux bleus, qui vraiment était assez attachant d'ailleurs, et aussi bien en garde à vue que par la suite à l'instruction, il aura souvent les larmes aux yeux, il sera souvent très très ému. Et donc on avait une espèce de grande différence entre ce qu'on lui reprochait, et cette tragédie que vous évoquiez à juste titre, et le rôle qui était le sien et sa réaction. À tel point qu'on s'est souvent posé la question, je n'étais pas le seul à me la poser, sur la véracité de ces aveux. Et parce qu'ils vont, il y aura des rétractations, vous l'évoquiez, je crois, il y a un instant.
Oui.
Et je pense que l'explication de tout cela est certainement dans la relation qu'il y avait à la hiérarchie, dans cette caractéristique qui était la sienne, mais pas seulement la sienne, celle des autres également, d'être très soumis aux directives et à la hiérarchie. Je voudrais simplement vous donner une très courte anecdote. Nous étions dans ce procès marathon devant la cour d'assises de Rouen que présidait donc Jean Reynaud, votre invité, et Maître Coutant-Père était là également pour les victimes. Et à un moment donné, le box s'ouvre, l'audience allait commencer, et les différents matelots étaient rentrés dans l'ordre. Mikhaïlovski était juste derrière moi, j'étais assis au fond de la petite place qui était réservée aux avocats devant. Et tout à coup, à un moment donné, il se passe 2-3 secondes avant que le commandant rentre. Et quand le commandant est entré, il s'est passé quelque chose que j'ai rarement vu dans les nombreux procès d'assises que j'ai eu en charge, c'est que tous les garçons dans le box se sont levés. Il y a eu une espèce de déférence extraordinaire à l'égard de ce commandant. Nous étions au tout début de ce procès qui devait durer 15 jours, qui durera au moins 4 semaines, et je crois que là, nous avions mis le doigt sur quelque chose. Alors, bien sûr, ça vous paraît aujourd'hui extraordinaire qu'il y ait la mort de ces malheureux garçons, et puis cela paraît dérisoire, ce que je vous indique. Eh bien, pas du tout. Je pense que ces marins étaient absolument conditionnés par le fait que passagers clandestins était une véritable catastrophe pour eux, pour leur devenir, également pour leur commandant, dont l'implication professionnelle allait être mise en cause. Mmh. Ça peut vous paraître désuet, ça peut vous paraître détaché, décalé, ne le croyez certainement pas. Nous sommes là, je pense, au nœud du cœur, enfin au cœur du problème. C'est ce qui explique ce qui s'est passé.
Mais il y a peut-être quand même une autre type d'explication aussi, Maître Coutant-Père, c'est que, en préparant cette émission et en lisant donc tout un dossier ces dernières heures, j'ai découvert que certains bateaux, et ça c'est le rôle des armateurs, qui apparemment n'étaient pas sur le banc des accusés, et qui frappent de très lourdes amendes les commandants, et même des retenues sur salaire sur les membres de l'équipage. Comment vous pourriez décrire, vous, ce système ?
Je voudrais rappeler que l'équipage venait de la Compagnie de la Mer Noire, qui était la flotte commerciale de l'URSS, et c'est la raison pour laquelle c'était une organisation quasiment militaire. C'est-à-dire, il faut savoir que c'était des hauts gradés militaires au niveau du commandant et du second. Bon, deuxièmement, Après la fin du RSS, il y a eu un démantèlement et comme ils étaient d'excellents marins, on leur a proposé du travail dans des compagnies privées. Mmh. Et on arrive justement dans ces espèces d'usines à gaz qui échappent à toute fiscalité d'ailleurs, oui, entre Monaco, Chypre, Gibraltar, le Libéria, etc. Mmh. Or, effectivement, et ça c'est la faute de l'Europe, je dirais, c'est une forteresse. Il y a des sanctions, il y a des pénalités, les bateaux sont bloqués. Oui. Quand il y a une cargaison de cacao, il faut la débarquer parce que sinon elle pourrit. Mmh. Et ça veut dire qu'il y avait des instructions. Voilà, quand il y a des clandestins, le bateau est bloqué.
Oui. Et l'armateur doit les rapatrier à ses frais dans leur pays d'origine.
D'une part, mais ça, je dirais que c'est marginal comme coût.
Non,
mais enfin bon. En tout cas, il y avait une circulaire. On a beaucoup parlé d'une circulaire qui qualifiait les passagers clandestins de lièvres. Les lièvres qu'il faut. Et quand j'ai entendu le terme débusqué tout à l'heure, j'ai trouvé qu'il n'était pas tout à fait adéquat parce que ça va avec lièvre. Donc, il y avait eu beaucoup d'incidents sur cette ligne parce que c'est une ligne qui venait du Cameroun. C'était un bateau affrété par une compagnie camerounaise. Beaucoup de retard à cause de ça. Et les instructions, c'est il ne doit plus y avoir de clandestins. Sinon, c'est fini le boulot pour vous. Au revoir les dollars.
Alors, on vous retrouve, Maître Ben Boili, dans un petit instant. On va faire une pause très courte dans l'émission. Je voudrais avoir le point de vue maintenant du président de l'époque, de la Cour d'assises, donc Jean Reynaud, maintenant qu'on commence à comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de tout cela. Quelques secondes et on revient.
L'heure du crime sur RTL.
Parlons du procès des membres de l'équipage du MC Ruby qui était dans le box des accusés pour ce procès qui s'est ouvert le 13 novembre 1995 et qui se terminerait le 10 décembre, donc un mois de débat alors qu'il était prévu au départ pour deux semaines. Jean Reynaud va nous dire dans un instant, lorsqu'on évoque ce procès, quels sont les points, à son avis, les plus importants à retenir, peut-être parce qu'au-delà des faits même dont il est question. Mais je voudrais juste, avant de lui donner la parole, qu'on entende un autre document RTL. Il faut savoir que le 30 novembre, il y avait eu un moment d'émotion très fort pendant le procès, parce que les accusés avaient quasiment tous nié les faits, et puis là, finalement, ils étaient passés aux aveux. Ils avaient raconté comment ils avaient tué et jeter par-dessus bord les huit clandestins. Et puis le 5 décembre, c'est le commandant Oleg Mikhaïlevski qui plaide pour sa part l'absence de responsabilité personnelle dans le drame. Écoutez ce qu'en disait à l'époque Jacques Ardouin qui suivait le procès pour RTL.
Il y a eu un crime commis à mon bord par mes compatriotes. Comment pourrais-je le dénoncer ? C'est cette crainte qui m'a empêché d'agir. Le commandant est sur la même longueur d'onde que les matelots qui l'ont précédé à la barre. Sa déposition est en fait une charge supplémentaire à l'encontre d'Artemenko, son second. Qui lui aurait signalé la présence de clandestins à bord ? Artemenko. Qui lui aurait déclaré « Ils ont agi comme des pirates. Si on agissait comme des pirates en les jetant par-dessus bord ?» Artemenko. Qui lui aurait suggéré enfin de ne pas envoyer un téléx informant les autorités de la découverte des clandestins ? Toujours Artemenko. À se demander qui du Pacha ou du second commandait le navire. Un matin, j'ai vu son état, j'ai compris qu'il avait accompli son plan, ajoutera le commandant. Un commandant qui a signé au Havre un document administratif mentionnant qu'il n'y avait pas de clandestins sur le MC Ruby.
Alors, par erreur, j'ai attribué au nom du commandant Oleg Mikhaïlevski, mais qui était la personne que défendait donc Maître Ben Boili, chez qui on revient dans un instant. Mais d'abord, Président Reynaud, qu'est-ce qui ressort pour vous ? Qu'est-ce qui est important de redire aujourd'hui, aussi longtemps après les faits, sur ce procès ?
Alors, ce que je voudrais dire, c'est que il y a eu un dossier de procédure et il y a eu des débats. Et une fois de plus, je vais regretter que les débats ne soient pas enregistrés par le son. Ce qui est possible et faisable. Je signale au passage que la Cour d'assises de Genève, par exemple, où je suis allé, enregistre l'intégralité des débats par le son. Et lorsqu'on n'a plus de dossier papier, lorsque l'informatisation n'était pas totalement généralisée, eh bien on se fie à des souvenirs qui maintenant sont vieux de 20 ans.
Bien sûr.
Alors, à la place où je suis, moi je voudrais insister sur la complexité des problèmes de droit. C'est pas que je me désincarne, les aspects humains sont évidemment très intéressants, mais il y avait plusieurs aspects de droit et de procédure qui étaient importants dans ce dossier-là. Le premier aspect, c'est des passagers ghanéens sur un bateau avec un pavillon des Bahamas, qui sont tués possiblement au large des côtes du Portugal par des marins qui sont soit russes, soit ukrainiens, soit même abkhazes pour l'un d'entre eux. Finalement, qu'est-ce que la France vient faire là-dedans? Et pourquoi ces gens-là ont-ils été jugés en France?
Oui, alors, le procès a répondu à cette...
Tout à fait.
Parce que ça pouvait être opposé, vous êtes opposé.
Ça l'a été pendant le temps de l'instruction. Ça l'a été pendant le temps de l'instruction. Et lorsque c'est... Alors, la réponse, elle est simple. C'est que sont compétents les juges d'instruction, notamment du lieu d'arrestation.
D'accord.
Ils ont donc été arrêtés au Havre. Donc, était compétent la cour d'assises dont le Havre dépendait, celle de Rouen.
D'accord.
Et à partir du moment où les juridictions françaises sont compétentes, le droit français est applicable.
Voilà, il est applicable à l'ensemble de la chaîne d'événements,
absolument.
Même si ça s'est passé dans les eaux internationales. D'accord.
Avec des éléments d'extranéité, je répète, des étrangers de toute nationalité.
C'est la convention de Genève de 1958 sur la compétence universelle en matière de crimes en haute mer. Donc c'est également le droit international qui a appuyé la compétence française.
Alors, je voudrais ajouter deux points. Je crois que c'est faut le dire, ça, parce que c'est le hasard des choses. Les faits ont été commis à une époque où était en vigueur ce qu'on appelait l'ancien code pénal. Ils ont été jugés sous l'empire d'un nouveau code pénal. Ce qui fait que pour des raisons de droit pur, dans le détail desquelles ce serait fastidieux d'entrer, dans l'échelle des peines, voilà, applicables aux marins, qui ont été reconnus coupables, il n'y avait pas, si vous voulez, de possibilité de choix de peine intermédiaire entre la réclusion criminelle à perpétuité et 20 ans.
D'accord.
On ne pouvait pas mettre, par exemple, 30 ans ou quelque chose comme ça.
D'accord.
Donc, rappelez que le commandant est le second dans la hiérarchie. Alors, je répète que le commandant, c'était Ilinski. Le second, Artemenko, ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Et je répète, rien entre les deux. Ce qui fait que les personnes qui ont tué ou participé aux assassinats ont été condamnées à 20 ans, sauf Arakamiya qui lui a été acquitté.
Il lui a été acquitté, d'accord.
Voilà.
Alors, un mot tout de suite à ce point d'Alain Lorne, parce que je voyais réagir au propos de Jean Hénon. Je croyais que c'était simplement de l'attention.
Non, la réponse est arrivée après.
Oui, d'accord. Est-ce que les accusés ont accepté et ont compris parce que c'est aussi
des
magies des procès.
Il y a toujours un point de droit sur lequel je voudrais revenir, sur lequel
allez-y.
Il faut savoir que, à l'époque où ce procès a été jugé, la cour d'assises ne motivait pas sa décision.
D'accord.
Qui a fait quoi? C'est quand même très important. Comment et pourquoi? Et quelles sont les charges ou les preuves qui ont été retenues par la cour? On ne l'expliquait pas. On ne l'expliquait pas. Donc la loi, de ce point de vue-là, a changé. Et c'est simplement depuis, mais c'est tout à fait récent, je crois que c'est depuis la fin de l'année 2012, c'est quand même incroyable.
Que les verdicts sont motivés.
Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et deuxième élément qui est important, toujours de procédure, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appel. C'est-à-dire que la décision intervenait.
C'était avant 2002.
Voilà. Il n'y avait pas d'appel. Voilà.
Donc la condamnation était définitive.
Absolument.
Voilà.
Sauf si elle était cassée.
Voilà.
Et ça, c'est quand même très important que des accusés de faits aussi graves n'aient pas pu savoir, personne par personne, fait par fait, pour quelles raisons ils étaient déclarés coupables, et secondairement, pourquoi ils étaient condamnés à telle peine plutôt qu'à telle autre. Voilà, c'est ce que je crois que ça valait le dire sur le plan du droit, c'est
absolument
important.
Alors, on va faire une dernière pause dans l'émission. On va retrouver dans un instant Maître Ben Bouali qui est au Havre, et avec Maître Coutemper, je vais vous poser en fait la même question, mais évidemment, vous ne représentiez pas les mêmes personnes. Comment ont réagi ceux que vous défendiez devant ce verdict de cour d'assises? À tout de suite.
L'heure du crime sur RTL.
On voudrait savoir, Alain Lorne, je rappelle que journaliste à l'AFP, vous avez rencontré tout de suite Kingsley Ofusu, donc c'était ce rescapé, le neuvième clandestin qui avait survécu à ce drame, à cette horreur. Il est resté 3 ans en France, dans des conditions assez difficiles que vous décrivez dans votre livre, notamment à l'Armée du Salut, je crois.
Oui, il était hébergé à l'Armée du Salut pendant quelques mois, mais... Après quoi, il a quitté l'Armée du Salut. Et dès qu'il a eu un peu d'argent, il est même retourné voir son épouse à Takoradi. Et il s'est dit qu'il s'était marié une seconde fois, quelque part en France. Il avait eu aussi un enfant ici en France. Bon, ouais. Mais maintenant, je...
Et depuis
Il y a fort longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Il est passé me voir une année à l'AFP, après que ce film britannique apparemment ait été tourné, qui racontait son histoire. Alors, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que ce garçon qui était très athlétique, qui ressemblait à Carl Lewis et qui avait vraiment cette condition physique extraordinaire, qui lui a sauvé la vie. Il avait beaucoup grossi, surtout il avait pris 20 ou 30 kilos. Voilà, donc il est arrivé avec des shorts incroyables. Il a débarqué à l'AFP, je me souviens toujours. Et depuis, qu'est-il devenu? Je ne sais pas. Moi, j'ai plus de nouvelles.
Et pour votre livre, vous aviez refait le parcours. Vous êtes allé au du Ghana, où le MC Ruby était parti.
Oui, oui,
vous avez vu la famille de Kingsley.
C'est... Non seulement la famille de Kingsley, son épouse qui s'appelait Ceci, qui était couturière et qui avait demandé à Kingsley qu'on lui offre, qu'il lui rapporte une machine à coudre.
Ouais.
Et j'étais d'ailleurs parti au Ghana avec une poussette.
Ouais. Parce qu'il avait eu un enfant.
Voilà. Alors inutile de vous dire que l'utilisation d'une poussette dans les rues constellées de nids de poules de Takoradi, c'était absolument fantastique. Mais il y avait là un signe de richesse.
Vous, ça vous a marqué profondément, cette affaire?
Écoutez, initialement...
Au-delà de Game Cérébus.
Initialement, bon, moi je débarque dans cette histoire en me disant, voilà une bonne histoire à écrire, j'aime bien ces gens qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis, à partir du moment où on commence à entrer dans les histoires de sang, de massacre et tout, on passe dans une autre dimension, et c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, ouais.
Maître Coutemper, vous représentiez, je rappelle, les familles donc de ceux qui sont morts. Comment ces familles ont-elles pris le verdict du procès, tout ce qui s'y est dit?
Un point que je voudrais rappeler qui est assez essentiel. J'ai pu représenter ces familles en présence de ces familles qui sont venues du Ghana. Donc vous imaginez qu'il fallait trouver des moyens. Non pas pour moi, mais surtout pour le long séjour, etc.
Ouais.
Grâce au président Rawlings, le président du Ghana de l'époque, qui a dit, on va tout prendre en charge.
D'accord.
Et avec le relais de l'ambassade. Donc ça, c'était quand même un point très important. Les familles ont donc assisté au procès. C'était très douloureux pour elles, évidemment. Mais elles étaient d'accord avec moi à la fin que nous avons beaucoup regretté. Bon, il y a eu ces condamnations, mais au-delà, les responsabilités supérieures qui étaient les combines des armateurs, parce qu'il faut appeler ça comme ça, les sociétés dans tous les coins du monde où il n'y a jamais de responsable de quoi que ce soit, mais qui donnent des instructions, sachant que le commandant Iniski remplaçait un précédent commandant qui avait été limogé parce qu'il y avait régulièrement des passagers clandestins. Et donc la condition, c'était qu'il n'en fallait pas sur cette ligne. Il y avait même un contrôleur de l'armateur, au nom de l'armateur qui était dans le bateau et qui, d'ailleurs, n'est pas venu au procès. Donc, ces familles qui sont confrontées, les gens parlent, que ce soit au Ghana, que ce soit à Douala, au Cameroun, etc., finalement, ont réalisé que c'était formidable que la France ait décidé de faire un procès, parce qu'il arrive qu'il y ait des découvertes, mais qu'il n'y ait pas de procès. La France est allée jusqu'au bout d'une attribution de compétences, je dirais. Mais on n'est pas allé là où il y a la cause de tous ces malheurs, c'est-à-dire ces armateurs qui finalement s'en sont lavés les mains.
Alors, président Reynaud, c'était possible? La justice y a pensé? Alors, pendant
je crois qu'il y a deux registres dans ce qui vient d'être dit. C'est le problème de la responsabilité pénale et le problème de la responsabilité civile.
Et morale, n'en parlons pas.
Oui, morale.
Ça met jamais quelqu'un sur le banc.
Et donc, qu'il y ait des incitations, qu'il y ait eu des incitations ou des raisons ou des causes financières.
C'est évident.
C'est évident. Bon. Donc, rechercher la responsabilité éventuelles des personnes qui étaient à l'origine de ces causes, c'était peut-être possible, encore qu'ils étaient à l'étranger, hein, c'était les Bahamas, je ne sais où.
Je veux dire trop. Pourquoi je vous posais la question.
Ils étaient à Monaco, et ils sont venus.
Oui. Je veux dire pourquoi je posais la question. C'est parce qu'on peut se demander s'il y a eu un avant, un après ce procès, est-ce qu'au moins ce procès a changé les choses.
J'espère.
Pédagogique.
Ouais. J'espère.
Oh, on va aller, parce que je vois le temps
tourner. Il y a notamment,
je fais une
parenthèse, il y a un prêtre catholique qui était là, et qui était marin aussi, qui s'appelle le père Bienfait, qui s'est intéressé à tout, qui était très près du monde des marins. Ouais. Et je crois qu'il aurait, il a des choses, choses à dire, et il est très bien. Enfin, et sur ce qui a pu se passer après, je crois qu'il pourrait peut-être le dire.
Ah ben, très bien. Ben, écoutez, on va en parler tout de suite après l'émission. Alors on retourne au Havre avec Maître Patrick Benboili. Maintenant qu'on a tous les tenants et les aboutissants en tête, Maître. S'agissant de votre client, en tout cas, celui que vous défendiez, est-ce que le procès l'a changé ?
Moi, j'ai la chance de ne pas être au Havre. Là, je suis à Crévelan sous la neige en Savoie.
Ah, pardon. On ne m'avait pas dit, vous voyez. Donc, barreau du Havre, je me dis, non, les avocats travaillent même pendant les vacances.
Écoutez, je crois que vous avez dit, M. Pradel, ce qu'il fallait dire il y a un instant quand vous avez parlé de responsabilité morale. Pour Oleg Mikhaïlovski, parce que bien sûr, je ne peux m'exprimer que pour lui, l'aspect moral a été considérable, un peu comme s'il prenait conscience pendant l'instruction et le procès de la gravité, de la tragédie à laquelle il avait participé, dont il était en partie responsable. Et l'élément qui a été important pour lui, je l'avais plaidé et ça a été suivi et je m'en réjouis, c'est de mettre une hiérarchie des responsabilités inverse à ce qui se disait notamment du côté de l'avocat général, à savoir que pour moi le commandant ne pouvait pas se défausser tel qu'il se défaussait, et on pouvait faire la même remarque pour Artemenko qui était le second.
Qui ont tous deux été condamnés à perpétuité.
À perpétuité, alors que Mikhaïlovski, comme les autres, a pris 20 ans. Donc cette peine, une peine ne plaît jamais, mais cette peine était quand même la réponse à quelque chose de grave. Et je voudrais rebondir à juste un court instant, et j'en ai vraiment deux secondes, à ce que disait Maître Coutant-Père il y a un instant, peut-être aller au-delà encore de ce qu'elle disait, parce que je partage un peu son point de vue. À savoir que le sentiment qui m'est resté quand cette affaire s'est refermée, moi j'ai travaillé pour qu'il puisse repartir, purger sa peine en Ukraine, et nous y avons réussi. Ce qui me restait comme sentiment, c'était que la vérité, nous l'avions trouvée en partie, mais des choses n'avaient pas été dites. Il y a eu tellement d'interventions au niveau de la garde à vue, au niveau d'un certain interprète du consulat, tellement d'interventions au niveau des armateurs pendant la procédure, que je pense réellement que des noms n'ont pas été prononcés, que des personnalités, des personnes n'ont pas été mises en cause telles qu'elles l'auraient dû. On a condamné des gens coupables. C'est une évidence à mon sens, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de coupables que cela.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'ils sont devenus, les uns et les autres, les familles donc sont rentrées là-bas.
Non, je crois que King Seofusu vit au Ghana. J'ai eu de ses nouvelles. Ah, il vit au Ghana.
D'accord.
Il a repris sa vie et il vit avec sa famille qu'il a retrouvée malgré des lettres un peu alarmistes que la famille lui a envoyées. Ouais. Il a retrouvé sa famille.
Il a retrouvé sa famille et les deux autres, président Reynaud, purgent toujours leur reconnaissance.
Non, ils sont partis. En Ukraine, ça je le sais, puisque...
Je sais qu'ils ont été transférés.
J'ai accepté, j'ai donné l'accord pour qu'ils soient transférés.
Et il m'a été indiqué récemment, quand j'ai su que cette émission allait... C'est d'ailleurs son avocat qui me l'a indiqué, que le commandant Ilnitski est décédé. Alors quand, je ne sais pas...
En tout cas, je vous remercie beaucoup, et grâce à vous, eh bien, on se souviendra de cette tragédie du MC Ruby. Merci beaucoup, Alain Lorne.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce livre qui est remarquable, vraiment, parce que ça va beaucoup plus loin qu'un reportage, et on comprend beaucoup, beaucoup de choses en vous lisant. Clandestin, 9 Africains dans la cale, un rescapé, aux éditions L'Harmattan. C'est un livre qu'on peut toujours trouver, et on le remettra de toute façon, évidemment, sur rtl.fr. Président Reynaud, merci infiniment.
Merci beaucoup.
Madame Coutant-Père, merci.
Merci, monsieur.
Je vais les dire à la prochaine, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se parle d'affaires criminelles ensemble. L'émission est terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans un instant.